Amis du jour, ben bonjour et bienvenue dans Il était une science, votre émission préférée d'histoire des sciences, en compagnie de Pauline et de moi-même. Bonjour Pauline.
Bonjour Nicolas, ravi de te retrouver.
Ah, mais moi aussi, je suis vraiment ravi de te retrouver après ces longs mois sans Il était une science. Une fois n'est pas coutume, à l'occasion de ce 1er avril, on va être un peu moins sérieux que d'habitude, juste un peu moins. Dernière de notre déguisement de joyeux luron, on va vous parler de choses très sérieuses, mais d'abord une petite blague.
Je me méfie des blagues de Nicolas, mais bon.
Le chat de Schrödinger entre dans un bar et n'y entre pas.
Il était une science.
Eh bien, comme je le disais tout de suite, ravie de te retrouver, Nicolas, pour ce nouveau numéro d'Il était une science. Donc, cette blague fait montre de ton humour douteux, effectivement.
Merci.
Le chat de Schrödinger entre dans un bar et n'y entre pas. Personnellement, alors je ne sais pas si c'est en raison de mon bagage non scientifique, mais je ne comprends tout simplement pas. Alors, il semblerait quand même, puisque tu m'as vaguement expliqué quelque chose à ce propos, que nous allons en fait tout simplement parler de mécanique quantique, et il semblerait que la mécanique quantique permette d'expliquer cette blague. Alors, écoutez bien, parce que à la fin, vous devrez avoir compris la blague, il y aura un terreau.
Et oui, d'ailleurs, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux pour dire si oui ou non vous avez compris cette blague. J'attends beaucoup de vous, chers auditeurs. On va, oui, en effet, parler de mécanique quantique, qui est une branche de la physique qui s'est développée au début du XXe siècle et qui est en réponse à une crise dans la physique dont on a déjà parlé lors d'émissions précédentes, qui arrive à la fin du XIXe siècle.
Mais alors justement, tu parles de physique, mais il y a donc, en fait, la mécanique quantique est une sous-partie de la physique quantique.
C'est ça. C'est-à-dire que la mécanique quantique, historiquement, c'est la première partie de la physique quantique qui a été introduite dans la physique, dans les années 1910. Et à partir de là, à partir des nouvelles connaissances qu'on avait sur le monde microscopique et sur la mécanique quantique qui régit le déplacement des ondes et des corpuscules en mécanique quantique, bah, on a pu étendre ce domaine à tout un pan de la physique.
D'accord. Et donc du coup, la mécanique quantique donc, est la base de la physique quantique, mais finalement, la physique quantique, elle se définit tout d'abord en opposition par rapport à quel autre type de physique ?
Alors, elle se définit en opposition par rapport à la physique classique. Au niveau de la mécanique, c'est vraiment la mécanique newtonienne qui est mise en cause, parce qu'on avait à la fin du 19e siècle une certaine incertitude sur qu'est-ce que c'est que la lumière. Est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est un corpuscule? On en a déjà parlé dans une émission sur la lumière. Et donc finalement, est-ce que si c'est un corpuscule, normalement les corpuscules de lumière doivent se déplacer selon les lois de la physique de Newton. Et apparemment, puisqu'on a l'impression que la lumière a un comportement ondulatoire, à première vue, c'est pas compatible du tout avec la mécanique newtonienne. Par exemple, il y a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'interférence. Si tu envoies de la lumière sur deux fentes parallèles, après ces fentes, tu vas avoir, dans certaines conditions, des raies de lumineuses, puis sombres, puis lumineuses, puis sombres. Et donc, il va y avoir des interférences entre les ondes, celles qui passent par la fente de droite et celles par la fente de gauche. Dans une interprétation corpusculaire, ça n'est pas possible. Il va y avoir des corpuscules qui passent à droite et d'autres qui passent à gauche. Et sur l'écran, derrière les fentes, tu vas avoir deux bandes plus lumineuses et aucune bande vraiment sombre. Donc ça s'oppose vraiment à la mécanique classique qui devrait s'appliquer si la lumière était un corpuscule comme un autre.
Et donc qui c'est qui interroge vraiment tout d'abord cette question, par exemple d'être de la lumière, des corps noirs?
Alors justement, voilà, alors les corps noirs, t'as donné le mot-clé, c'est-à-dire que le corps noir c'est un problème de thermodynamique qui pose beaucoup de problèmes en physique à la fin du 19e siècle, et une interprétation qui est proposée par Max Planck, c'est d'introduire ce qu'on appelle des quantas d'énergie. C'est-à-dire que Planck dit que l'énergie n'est pas quelque chose de continu. Tu peux pas avoir n'importe quelle quantité d'énergie. T'as un nombre entier de fois une quantité minimale, indivisible d'énergie, qu'il appelle un quantum.
Oui, finalement référence au mot quantité en fait.
Voilà, exactement. Le mot quantité, la quantification en fait de l'énergie dans le problème du corps noir, qui dit que l'énergie c'est juste la somme de petites quantités indivisibles.
D'accord. Et donc c'est cette découverte de l'importance de la quantité, ou cette insistance en tout cas sur la question quantitative, qui donne le nom tout simplement de physique ou mécanique quantique.
Exactement,
en fait,
c'est la quantification, la première quantification historique des lois de la physique qui a donné naissance historiquement à la physique quantique. Et donc après, dans la lignée de cette interprétation proposée par Planck, Einstein va introduire à l'aide de, enfin, pour expliquer des phénomènes électriques comme l'effet photoélectrique en fait, c'est d'ailleurs ça qui a valu le prix Nobel à Einstein parmi tant d'autres choses qu'il a apportées à la physique, c'est l'introduction du photon, c'est-à-dire d'une particule de lumière indivisible qui transporte un quantum d'énergie lumineuse. Et ce photon explique finalement beaucoup de choses. Mais on se retrouve finalement avec le problème de départ. Si ce photon est un corpuscule, il devrait obéir aux lois de la physique de Newton. Mm-hmm. Et manifestement, il n'y obéit pas puisqu'on a cru à un comportement ondulatoire de la lumière et on continue à observer ce comportement ondulatoire dans les expériences.
D'accord. Et donc après, justement, cette découverte du photon, qu'est-ce qui se passe
Donc, une fois qu'on a considéré qu'il y a un photon, il faut adapter les lois de la mécanique. Et il y a quelque chose qui va arriver, qui va débouler dans la physique et qui va vraiment continuer finalement cette situation de crise et va fonder la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle la relation d'incertitude de Heisenberg, proposée par Heisenberg dans les années 10. Qui dit qu'on ne peut pas connaître à la fois une durée et une énergie pour un système de manière parfaitement précise, ou ce qui est équivalent à la fois la position et la vitesse d'une particule. Et donc ça explique, dans une certaine interprétation, le caractère à la fois corpusculaire et ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire que oui, en effet, la lumière est un corpuscule, mais pas un corpuscule newtonien où on peut définir à tout instant la position et la vitesse. Si on définit la position, par exemple, en mesurant si le photon passe dans la fente de droite ou dans la fente de gauche, tu obtiens une incertitude sur la vitesse qui va casser la figure d'interférence. Par contre, si tu as une incertitude sur la position, ça te permet, donc, à droite ou à gauche, tu ne sais pas, ben ça te permet d'avoir une distribution, une figure d'interférence qui est liée en fait à ta connaissance de la vitesse du photon.
D'accord.
Et du coup, maintenant que nos auditeurs connaissent cette relation d'incertitude de Heisenberg et ce qu'elle signifie, eh ben, je leur propose une autre blague. Et à nouveau, j'aimerais beaucoup que nos auditeurs la comprennent, mais je vais faire un test avec toi, Pauline. C'est donc Heisenberg qui est dans sa voiture et qui se fait arrêter sur l'autoroute. Et le policier lui demande « Mais vous saviez à quelle vitesse vous alliez ?» Heisenberg répond « Pas du tout, mais je sais où je suis. »
Oui, en fait, je dirais là que d'abord, j'ai pas vraiment bien compris, et je crois que c'est surtout notre relation qui devient de plus en plus incertaine, tu vois.
Ah, c'est dommage.
Mais bon, c'est pas grave.
Je suis un peu triste pour nous retrouver et nous dire ça, Pauline.
Désolée, mais là, l'agrégation a tout gâché.
C'est pas très drôle pour un 1er avril, tu exagères.
Bon, et donc la première blague, au fait.
Alors la première blague sur le fameux chat de Schrödinger, dont je pense la plupart des gens ont entendu parler via la culture populaire, c'est à la suite de cette relation d'incertitude de Heisenberg et d'autres choses que Heisenberg introduit en physique pour expliquer les phénomènes de la toute nouvelle physique quantique, il y a toute une classe de physiciens, la majeure partie en fait de la communauté des physiciens, qui n'est pas d'accord avec cette interprétation parce qu'elle met en jeu une idée de probabilité. C'est-à-dire que plutôt que enfin, par rapport aux photons et à l'expérience des von Jung, que j'ai décrite tout à l'heure, qui s'appelle l'expérience des von Jung, tu as une probabilité finalement que le photon passe à droite ou à gauche, et à partir d'une situation de départ, tu as une certaine probabilité d'arriver dans la situation A ou B. Et ce qui n'est pas normal en physique, normalement, si tu connais tout, c'est l'idée de Laplace, c'est si tu connais à un instant toutes les positions et toutes les vitesses des particules dans un système, tu peux déterminer toutes les positions et toutes les vitesses à un instant ultérieur. Et la mécanique quantique s'oppose à ça en disant non, il y a une incertitude sur la position ou sur la vitesse, enfin une incertitude sur les deux en fait, sur le couple, et donc ça contredit cette chose. Et il y a l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique qui émerge, et Schrödinger, qui est un jeune physicien, va s'opposer à cette interprétation en proposant l'expérience de sensée suivante. On enferme un chat dans une boîte. Alors je ne parle pas de l'amour de Schrödinger pour les chats, hein, mais mettez un chat dans une boîte, et il y a une fiole de poison qui peut être brisée par la désintégration radioactive d'un atome. Et cette désintégration radioactive, dans l'interprétation quantique toute nouvelle de la nouvelle physique du XXe siècle, il a une probabilité de se désintégrer ou pas après un certain temps. Et donc, autrement dit, il y a une certaine probabilité que le poison se libère et que le chat soit mort ou vivant. Et dans l'interprétation de Copenhague, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour regarder l'état du chat, le chat n'est ni l'un ni l'autre, il est à la fois mort et vivant.
Oui, mais alors, quand tu dis à la fois mort et vivant, enfin, d'abord, ça n'a pas vraiment de sens. Ce que tu veux dire, c'est simplement, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas, en fait.
Non, voilà. Alors, en fait, cette expérience de pensée, elle s'applique au départ des particules qui, dans l'interprétation de Copenhague, peuvent avoir deux états superposés. C'est-à-dire vraiment être dans un mélange, une superposition parfaite de deux états. Et vraiment, la nouvelle mécanique quantique dit que tant qu'on n'a pas mesuré, ce n'est pas qu'on ne sait pas dans quel état est la particule, mais qu'elle est vraiment dans les deux états à la fois.
D'accord.
Et on voit bien qu'avec ce chat de Schrödinger,
l'ubiquité,
voilà,
en fait,
finalement, ce qui n'avait pas choqué les physiciens quand on a postulé ça pour une particule, c'était quelque chose de nouveau et pourquoi pas acceptable, mais finalement transposé à une situation macroscopique qui pourrait arriver dans la vie réelle si on était un tant soit peu statique avec les chats, là on voit qu'il y a un paradoxe
donc,
qui se dégage.
Ce que tu veux dire, c'est que si on s'en tient à une question simplement de particules simples, on peut très bien imaginer une superposition d'états sans trop de soucis, mais dès qu'on arrive à des choses plus complexes, donc une échelle macroscopique et en plus à du vivant, et qu'on parle d'états de mort ou de vie, et bien là ça devient un limite absurde en fait.
Oui,
c'est
voilà,
un paradoxe,
exactement,
c'est complètement
ça.
Paradoxal.
C'est complètement paradoxal. Et du coup, la communauté des physiciens a réagi assez vivement à cette paradoxe.
Juste, Schrödinger fait cette expérience de pensée pour se moquer, en fait.
Pas vraiment pour se moquer, plutôt pour faire avancer les choses. Il n'était pas dans une démarche critique, non. Il était, enfin, aussi plutôt dans une démarche critique,
oui.
au bon sens du terme, c'est-à-dire pas tourner en dérision les nouveaux modèles, mais essayer de mieux les comprendre en mettant au jour une situation dans laquelle il est clair qu'il va falloir revoir l'interprétation de Copenhague et expliquer pourquoi dans la vraie vie, si on met vraiment un chat dans une boîte avec une fiole de poison liée à un système quantique comme un atome qui est capable de se désintégrer, pourquoi est-ce que le chat il est bien mort ou bien vivant? Ça c'est évident, je veux dire on va le voir, on va entendre le chat à l'intérieur, tu vois, c'est pas quelque chose qui correspond à ce qu'on va pouvoir faire comme expérience dans la réalité.
Mais bon, moi je me pose quand même la question, d'où vient le choix du chat? Vraiment de
oui, il faut
du sadisme.
Voilà, et puis en plus, comme c'est une expérience scientifique, rappelons-le, normalement pour ne pas introduire de biais, il faut le faire avec beaucoup de chats et beaucoup de boîtes pour vérifier qu'en effet ça se passe bien comme ça. Donc c'est assez compliqué. Et donc cette expérience du chat de Schrödinger, cette expérience de pensée, elle est vraiment fondamentale parce que elle a été proposée en 1935 et en fait, actuellement on parle encore de chat de Schrödinger très sérieusement en mécanique quantique quand on crée des particules qui sont dans des superpositions d'état, qui est quelque chose qui arrive vraiment dans les laboratoires. Donc finalement tout ce paradoxe que dévoile Schrödinger, même si on en fait des blagues nous, c'est loin d'être drôle parce que ça menace de faire s'effondrer tout le nouvel édifice que les physiciens ont construit. et qui pourrait sauver la discipline de la catastrophe. Au départ, on a vraiment une situation de crise où on a besoin d'une nouvelle physique. Bon, alors là, je vous laisse, il y a beaucoup de tension et de suspense dans cette émission, je sens que le public n'en peut plus, et donc je vous propose une virgule musicale douce et romantique, en compagnie de Laurent Voulzy et de sa chanson « Quantique mécanique ».
Alors, humour douteux, chanson douteuse. Est-ce que j'ai le droit de douter de tes compétences scientifiques?
Vraiment, mes virgules musicales font partie de mes blagues pour cette émission.
D'accord, donc rigoler, rigoler. Juste pour ceux qui n'auraient pas compris, un quantique mécanique, c'est quantique, C-A-N-T-I-Q-U-E.
Voilà. Et donc pour revenir, voilà, on vous a fait suffisamment attendre. Pour revenir à ce problème du paradoxe du chat de Schrödinger, et bien il y a tout un problème en mécanique quantique qui est le problème de la mesure. C'est-à-dire que le vrai problème dans toute cette histoire, c'est pas tant que le chat soit mort et vivant, parce que on suppose que ça marche pour des particules. Et que cette limite quantique n'est accessible qu'en microscopique. Dans la réalité, le chat est macroscopique, et donc il va d'une certaine façon s'observer lui-même. Il y a suffisamment de particules dans le chat, l'état de mort ou de vie est trop complexe pour pouvoir faire une superposition parfaite des deux états mort et vivant, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais pour une particule, c'est possible. Alors il y a un problème plus fondamental qui est que si tu as une particule dans une telle superposition d'états, et que tu la mesures, elle va passer immédiatement et instantanément dans un des deux états. Et ça, c'est une transformation qui normalement n'est pas possible en physique, parce que c'est bien quelque chose qui n'est pas continu finalement.
Elle passe d'un
état à un autre qui est complètement différent ouais. Avec surtout une notion de probabilité, c'est-à-dire à partir d'un seul état, elle peut passer immédiatement sans apport extérieur. Ouais. Dans un état ou l'autre sans a priori qu'il y ait de choix quoi, qui soit fait. Et donc le problème de la décohérence, de passer d'un état cohérent superposé à un nouvel état, c'est un problème qui est encore d'actualité en mécanique quantique, en théorie. Et il y a des interprétations qui permettent d'expliquer ça, comme par exemple l'interprétation des univers multiples, qui fait beaucoup parler d'elle en science-fiction, mais qui est quelque chose qui existe vraiment. Et ça montre que finalement cet édifice, il est très efficace. La mécanique quantique, on l'utilise au quotidien en physique pour expliquer des tonnes de phénomènes, mais il reste encore des gros problèmes parce que c'est une discipline complexe.
Oui, donc la décohérence, en fait, c'est quand tu passes d'un état de cohérence à un état de décohérence, sachant que la cohérence, pourtant, pour nous, ça paraît pas cohérent,
c'est la
superposition d'états qui sont différents, au contraire.
Des deux états qui sont ensemble.
Voilà. D'accord, très bien. Bon,
c'était un peu lourd, t'as une petite blague, peut-être? Est-ce que tu te sens de prendre le flambeau et de faire une petite blague de mécanique quantique ou une blague sur les physiciens, parce que tu as l'air d'être très critique vis-à-vis des physiciens.
Alors les deux, donc je pense que ça rejoint la mécanique quantique et sur les physiciens très certainement également, sachant qu'en plus c'est une blague qui a l'avantage que je la comprenne déjà, donc c'est pas trop mal. Deux physiciens sont dans un train et passent devant un champ où se trouve un mouton. Tiens, dit l'un, ce mouton est noir. L'autre répond, non. Tout ce que tu peux dire, c'est qu'il est noir au moins d'un côté. Alors Nicolas, j'ai raison quand même, ça fait écho à des problèmes de mécanique quantique.
Oui, mécanique quantique, oui, mais plus généralement, ça fait écho au problème de l'empirisme des sciences
physiques. Science.
C'est-à-dire que pour montrer quelque chose, prouver quelque chose, on n'a pas d'autre solution que de l'observer.
C'est Saint Thomas, on croit, voilà. On ne sait que ce qu'on voit. Et finalement, ce qu'on disait tout à l'heure avec le chat de Schrödinger, c'est que, au final, est-ce qu'il est mort ou vivant, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas vu.
Voilà.
Mais c'est aussi se dire que si le chat était l'observateur
Voilà, là, il y a un problème plus fondamental, c'est qu'on sait qu'en physique, en général, la mesure perturbe l'état du système. Par exemple, si tu plonges un thermomètre dans de l'eau chaude, L'eau va chauffer le thermomètre et c'est pour ça que la température qui est indiquée va changer, mais l'eau en chauffant le thermomètre elle se refroidit un peu. Mm-hmm. Donc le fait de mesurer la température de l'eau, ça change la température de l'eau. Ça c'est un problème qu'on a toujours eu en physique, même en physique classique. Ouais. Mais en physique quantique c'est encore plus grave finalement, parce que la mesure même à distance, juste par l'ouverture de la boîte sans toucher au chat ou à la particule dans une superposition d'état, la simple mesure va changer l'état de manière drastique, puisqu'on a cette décohérence qui arrive et qui mathématiquement c'est quand même quelque chose d'assez compliqué.
Et donc en fait, pour revenir à la petite blague sur le mouton noir dont on ne voit qu'un côté finalement et dont on ne peut pas savoir de quelle couleur est l'autre côté, ça fait écho à justement Einstein qui a anticipé sur des objections qu'on pouvait apporter aux thèses quantiques et qui dit « Le mystique positiviste va rétorquer qu'on ne peut spéculer sur l'état du chat tant qu'on ne regarde pas, sous prétexte que cela ne serait pas scientifique. » Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que finalement, ça, c'est une manière de réhabiliter ce qu'on disait tout à l'heure, être l'expérience de pensée et donc la faculté aussi d'imagination au-delà de la stricte empirie, en science, y compris expérimentale. Alors qu'a priori, on se dit qu'en science expérimentale, on travaille sur du concret, sur du matériel, des objets, et surtout, on mesure et on voit.
On se contente pas de spéculation.
Voilà. Contrairement à ce qu'on peut faire peut-être en mathématiques, par exemple, où c'est beaucoup quand même des expériences aussi d'abord
de pensée oui,
en tout cas.
Voilà.
À la mort.
Et les expériences de pensée ont été très fécondes en physique tout au long du développement de la physique, mais en particulier dans cette branche qu'est la physique quantique, où la mesure n'était pas si simple à faire, en particulier à l'époque. Actuellement, on a des techniques d'instrumentation et de mesure neuves qui permettent d'explorer les différents champs de la physique quantique en tant que branche très très large de la physique, mais c'est quelque chose auquel on n'avait pas accès. Il y a des phénomènes comme la condensation de Bose-Einstein, qui a été imaginée par Bose et Einstein au début dans la première moitié du siècle, qui a été observée pour la première fois dans les années 90.
D'accord.
Et donc heureusement que finalement les expériences de pensée sont là quand même pour faire avancer la physique en attendant qu'on ait l'instrumentation nécessaire pour...
Oui, aussi parce qu'elles répondent quand même à des observations de la réalité, puisque c'est finalement cette observation du fait que la lumière donner lieu à diverses interprétations qui a obligé en fait à cette expérience de pensée. Donc c'est assez intéressant.
Je voulais justement continuer sur Einstein et parler d'Einstein, et ça a montré aussi un problème dans la communauté scientifique, qui est qu'à l'époque où cette mécanique quantique a été développée, Einstein était déjà un physicien respecté dans la communauté.
D'accord.
Et donc quand il s'est opposé frontalement à cette nouvelle interprétation de Copenhague et de probabilité en mécanique quantique, c'est là qu'il a prononcé la phrase fameuse que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, c'est-à-dire que Einstein refusait l'idée qu'il y ait une notion de probabilité dans l'évolution des états, même au niveau quantique, tout de suite, il y a une grande majorité de la communauté scientifique, et on le comprend, qui s'est rangée derrière Einstein. Mm-hmm. D'autant plus qu'Einstein avait apporté des contributions importantes dans ce domaine de la mécanique quantique, en parlant de photons, etc. Einstein, et comme Schrödinger, en fait, étaient partisans d'une interprétation qu'on dit semi-classique, c'est-à-dire garder toute cette physique classique et tous ces a priori, finalement, que les physiciens avaient, mais y adjoindre cette nouvelle idée de quantification introduite par Planck, quantification de l'énergie, quantification de plein de choses qu'on ne pensait pas quantifier, comme la position et la vitesse. Et c'est une espèce d'entre les deux qui, en fait, ne marche pas dans beaucoup de situations. Mais le fait que le poids d'Einstein dans la communauté scientifique a fait pencher la balance pendant très longtemps en faveur d'une théorie plus semi-classique qui refusait cette interprétation probabiliste de la physique.
D'accord. Mais du coup, finalement, cette histoire de chat de Schrödinger, au final, à la fin, vu que c'est un état macroscopique, on ne peut pas...
On peut pas appliquer ce problème de superposition au chat de Schrödinger, mais les chats de Schrödinger existent au niveau subatomique.
D'accord. Bon, bien, pour finir, une petite blague. Chat de Schrödinger wanted, mort et vif.
Voilà, exactement.
Donc la fin de l'émission arrive, on espère qu'elle vous aura plu. Moi je doute encore de l'humour de Nicolas ainsi que de ses goûts musicaux, mais certainement pas de ses compétences scientifiques. Donc on espère que vous avez aimé nous écouter et surtout que le contenu de votre tête ne ressemble pas à la virgule qui va suivre.
C'est pas trop gentil de faire des trucs bizarres avec les oreilles de la speakerine, Nicolas et Pauline. Il était une science à l'instant sur Transistor avec le retour de notre duo de choc, Pauline donc et Nicolas ressuscités d'entre les agrégatifs pour l'occasion. Chers auditeurs, on poursuit cette journée de la radio en direct avec vous et tout de suite la première conférence du jour. Mathias et Quentin, ainsi que leurs invités, sont là pour discuter du rapport entre rire et politique dans les médias. Et c'est tout de suite. S'ils veulent bien arriver. Bon. Chers auditeurs, pendant que les invités s'installent, on vous annonce la suite du programme, donc tout de suite une conférence. Et ensuite, ce sera Transistor Midi, votre émission de 2 heures. À suivre, à retrouver dedans beaucoup de rubriques. Il y aura du cinéma, il y aura de la critique littéraire, il y aura une invitée et beaucoup d'autres choses encore, des rubriques d'humour, un éphéméride, d'une météo. Je vous invite vraiment à rester avec nous sur Transistor. Et comme nos invités et nos conférenciers sont en train de s'installer, on va bientôt pouvoir commencer cette conférence. Restez avec nous sur Transistor. C'est tout de suite. Mathias, je te laisse la parole.